l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de prénom, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on ne leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas. Bonsoir, installez-vous confortablement, c'est Lu et approuvé qui commence. Ce soir, nous allons lire « Détruire les villes » avec poésie et subversion. C'est un bouquin qui réunit 21 numéros du fanzine des urbanismes, paru entre 2001 et 2006. Alors, les articles sont écrits à la main, dans tous les sens. On retrouve bien l'esprit du fanzine édité sous le manteau, les idées du soir mises en mots dans la nuit et photocopiées au petit matin. On a pioché dedans quelques articles de ces amoureuses et amoureux des villes passionnées par leur destruction. C'est des critiques de la ville et des propositions d'alternatives au travers de la poésie. Et après ça, on vous passera un extrait, lu par des copains, de « La créativité, le crime parfait » de Philippe Petit.
Détruire la planète, faire n'importe quoi, étaient devenues des habitudes. La plupart des gens acceptaient de devenir des esclaves. Pour perpétuer ces habitudes, ceux qui n'acceptaient pas devenaient des exclus ou des sans-ressources, puis de doux terroristes et de dangereux rêveurs.
Il faudrait construire des villes à la campagne. Ah oui, on est très critique. Mais qu'est-ce qu'on propose, hein ? Vous vous demandez. Ben, on ne sait pas vraiment. Ce dont on est sûr, c'est que les villes géantes ne sont pas faites pour rendre les gens heureux et heureuses. Mais dans la campagne, les gens ne sont pas forcément heureux, alors. Alors on cherche. Ce qu'il faudrait, c'est que cohabitent différents modes d'habiter. On a quand même quelques pistes. D'abord, il y a un potentiel d'environ 1 million d'exploitations agricoles en France. Un exode urbain ne ferait pas de mal. À la campagne, on peut construire sa maison soi-même. On peut être autonome en énergie et en nourriture. C'est déjà un grand pas pour une société nouvelle. Et puis, il y a le nomadisme. On est souvent rivé à sa vie à cause d'un boulot ou d'un appart. Et si en plus on est proprio, on s'enracine. Pouvoir bouger de lieu en lieu est un vrai pouvoir, notamment pour la circulation de l'information, pour le partage de savoirs de toutes sortes. Il peut aussi y avoir des rassemblements humains, notamment pour faciliter les soins ou l'apprentissage. Mais les universités ou les écoles ne seraient pas des usines comme maintenant. Les savoirs seraient dispensés en fonction des apprentis. Chacun ou chacune pourrait apprendre ce qu'il ou elle veut quand il veut. Pareil pour la médecine. Elle serait préventive et non plus uniquement curative. En ce qui concerne l'un des avantages certains de grandes villes, à savoir qu'il y a plein de gens différentes et différents qui peuvent devenir autant de copains et de copines. On est plus sec. On ne croit pas que les emails et les coups de fil puissent remplacer les contacts humains. Mais dans un mode de vie plus ouvert, on serait plus curieux d'aller sur les routes rencontrer les gens. Et notre porte serait toujours ouverte. Bon, ce ne sont que quelques pistes. Elles demandent à être poursuivies. Rendez-vous dans le prochain numéro. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui encore des villages ? Sûrement de moins en moins. Mais qu'est-ce qu'un village ? Se définit-il uniquement comme une agglomération de peut-être moins de 2000 habitants, c'est-à-dire juste sur un plan spatial ? Ou bien faut-il prendre en compte aussi, surtout, les relations sociales qui s'y passent ? Un village sans aucun commerce, sans presque plus d'agriculteurs, et dont la quasi-totalité des habitants ou habitantes travaillent tous les jours à la ville la plus proche, est-il encore un village? Ou bien est-il devenu un quartier, une banlieue de cette ville, en gardant seulement son architecture de village et son environnement un peu plus vert? A contrario, un quartier d'une grande ville avec ses bars, ses petits commerces, ses places, ses rues toujours fréquentées, ses marchés quotidiens, ses habitants qui se rencontrent dans la rue, est-il encore seulement un quartier d'une ville, ou bien peut-on dire qu'il s'agit d'un village? Les gens ont tendance à fuir les villes, dit-on aujourd'hui. Les ex-citadins sembleraient renverser l'exode rural en un exode urbain. J'ai l'impression que c'est complètement faux. Tous ces gens qui fuient la ville ne la fuient pas réellement. Ils vont simplement décentraliser leur domicile dans une banlieue verte de la ville, une banlieue sans béton et sans pot d'échappement. Une banlieue qui, sur les cartes postales ou en premier regard, on n'aura jamais les apparences d'une banlieue, mais celle d'un coin de campagne. Mais ces soi-disant villages ne sont en fait que des agrégats de domiciles posés les uns et les autres à côté des autres dans un environnement vert, des bouts de ville à la campagne. C'est la forme moderne de l'exode rural. Les gens vont dans l'autre direction qu'il y a 50 années, mais en fait, les campagnes continuent de se vider. Bien sûr, elles se remplissent de nouveau habitants, mais elles continuent à se vider de leur contenu social, de leur vie de village. Un lotissement dans un village sauvera peut-être l'épicerie qui périclite, mais ce lotissement restera cette chose horrible qu'est une ville qui colonise la campagne, environnante par petits bouts. Et si on vivait la ville tout nu, pour un naturisme urbain? Prendre le tramway, faire ses courses, siroter un café en terrasse, tout ça en nudité intégrale, en ville ou dans un quartier. Une folie indécente et exhibitionniste? Ben non, pas forcément. Ça s'appelle ou ça s'appellerait le naturisme urbain. Le naturisme urbain, comme on le connaît parfois mal, existe depuis longtemps. Il a pris sa forme institutionnalisée par une fédération nationale et internationale dans les années 60. Le premier quartier naturiste est né près de Montpellier, dans la commune d'Agde, au bord de la mer. L'expérience a connu des chemins un peu tortueux, mais ce n'est que pour l'exemple qu'il est cité ici. Alors quoi? C'est quoi le naturisme et pourquoi un naturisme urbain? Le naturisme est une manière de vivre avec son environnement caractérisé par une pratique collective, familiale et naturelle de la nudité intégrale qui a pour but de favoriser le respect, la tolérance et la connaissance de soi, des autres et de son environnement. On est loin des préjugés de perversion sexuelle, d'exhibitionnisme ou de voyeurisme. Le corps n'est pas considéré comme un objet sexuel, inconditionnellement excitant et érotique. Le naturisme est un moyen de libération et d'émancipation sur de nombreux niveaux de libération. Libération du vêtement, des mouvements, du regard des autres, compréhension corporelle, sensibilisation sensitive, sans compter que lorsque l'on est nu, on est beaucoup plus réceptif et respectueux de son environnement. De nombreux lieux naturistes existent aujourd'hui en Europe, en Allemagne, en Belgique, Pays-Bas, Espagne, dans des lieux essentiellement de pleine nature, très protégés. Le Cap d'Agde, comme il est appelé, est le seul quartier urbain d'Europe, en fait une partie de la commune d'Agde, qui a été achetée et est gérée par des propriétaires privés qui ont développé un centre naturiste avec sa poste, ses commerces, son port, etc. Seulement, il semble que ville et naturisme ne soient pas faits pour se développer harmonieusement, que les comportements humains très naturels et conviviaux en naturisme rural n'ont jamais pris en milieu citadin. Peu de temps après son ouverture, le Cap d'Agde est devenu un lieu de rencontre très prisé, très bétonné, aux nombreuses discothèques réservées aux adultes. Le naturisme comme mouvement de libération et d'émancipation, notamment de la femme, est bien loin. Cette tendance s'accentue encore, le tourisme sexuel exploitant la merveille, la misère et la frustration. La Fédération française de naturisme refuse d'homologuer ce centre, et pourtant elle n'est pas avare des grands centres africains de la côte landaise. Est-ce qu'il faut en déduire que la pratique urbaine du naturisme est vouée à l'échec? La ville est-elle à ce point une image digne de Rousseau, lieu intrinsèque de vice et de violence? La pratique du sadomasochisme public atteignant des limites douteuses au Cap. Alors même que ce n'est pas dans le naturisme et sa pratique qu'il faut chercher l'erreur. On reconnaît aujourd'hui les bénéfices environnementaux, humains, psychologiques, pédagogiques du naturisme. Le naturisme, c'est de l'éducation populaire. Et pourquoi pas urbain en plus. La ville n'est pas créatrice d'une force interne de destruction. Elle est ce que nous en faisons. Construction de nos choix de vie. Nos cités auraient beaucoup à gagner de l'esprit pacifique et écologique du naturisme. Les frustrations diminuent, qu'elles soient de nature consommatrice, physique, alimentaire, médicale ou vestimentaire bien sûr. De plus, le rapport à l'autre et à la sexualité est tellement plus simple, rien ne souligne moins le sexe que la nudité qui provoque finalement un regard global. Mais malheureusement, le Cap d'Agde est la seule expérience de naturisme urbain et elle n'est pas très reluisante. On peut quand même se demander pourquoi, car c'est notre seul exemple et point de départ. Déjà, le fait même qu'il n'y ait d'un seul quartier naturiste pourrait être une raison suffisante, car automatiquement, Agde attire tout et n'importe quoi comme pratique de nudité. Il n'y a pas d'autre choix. Les personnes qui recherchent des pratiques sexuelles collectives, essentiellement estivales, savent qu'elles trouveront ici plus d'adeptes, plus d'esprit de fête et de soirée que dans des petits campings naturistes du fin fond de la Creuse, ce qui entraîne une réaction, à défaut de trouver notre libertinage en campagne, nous le trouverons en ville. Cependant, cela ne signifie pas que la ville soit condamnée à être exclusivement un lieu de débauche orgiaque. Aussi parce que le Cap est maintenant équipé des infrastructures nécessaires, un site et base son chiffre d'affaires sur cette spécialité d'été. La boucle est bouclée pour Agde, mais ce sont là des choix politiques de la part des gestionnaires. Alors enfin, le seul cas de naturisme urbain n'est pas très satisfaisant. Il existe pourtant des clubs dans certaines villes où l'on peut se retrouver pour des balades, aller à la piscine en ville, mais ce n'est pas du naturisme plein air, mais dans des lieux clos, fermés. Et pourtant, qu'avons-nous à cacher? Tant pis, inventons-le ce naturisme urbain, sain et convivial. À Berlin ou à Munich, on peut pratiquer le naturisme dans les grands parcs, et pourquoi pas dans les quartiers, dans les cafés, dans les écoles. Le naturisme n'est pas une doctrine, c'est un choix personnel. Personne n'est obligé de se mettre nu, car c'est assez dur, c'est vrai. Ça demande une grande acceptation de soi et de confiance des autres. Mais que peut bien être psychologiquement et physiquement en soi une fois le pas franchi en toute simplicité? Il faut aussi que les conditions climatiques et environnementales soient réunies. Nu, on ne supporterait plus les échappements de gaz, les bagnoles, on préférerait se balader sur l'herbe que sur le bitume. On rigolerait des pubs, on se débarrasserait de notre superflu, on balancerait plus nos déchets n'importe où, on ferait attention à nos fleuves pour pouvoir s'y baigner. On apprécierait l'air du temps, on se sentirait plus pacifique, on trouverait normal d'aller cueillir nos fruits et on découragerait le voyeurisme.
J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces.
fenêtres. Les uns affirment que les maisons se composent de murs. Moi, j'affirme que les maisons se composent de fenêtres. J'ai conçu 8 types de fenêtres, de hauteur et de largeur différentes, et je les ai disposées irrégulièrement dans un mur, de sorte qu'on a l'impression que les fenêtres dansent à leur gré, sans tenir compte des espaces intérieurs. Tous les rebords de fenêtres sont recouverts en terre cuite, au lieu du zinc habituel. Les châssis et les dormants sont de 4 couleurs, rouge, bleu, noir et couleur bois. Presque toutes les fenêtres ont la croisée en T, typiquement viennoise, ainsi qu'une clé de voûte. De nombreuses fenêtres ont une bordure de crépi d'une autre couleur qui va se fondre avec le ton du crépi extérieur. Cela symbolise le droit de fenêtre individuelle. Lorsque dans une rue, des maisons alignées présentent chacune son type de fenêtre, personne ne trouve rien à redire. Ainsi, une maison Jugendstil aux fenêtres Jugendstil, une maison moderne aux fenêtres rectangulaires, une maison baroque aux fenêtres baroques. Mais lorsque ces trois types de fenêtres se retrouvent dans une même maison, les architectes dogmatiques ressentent cela comme un outrage à la séparation des races de fenêtres, comme une infraction aux lois de l'apartheid des fenêtres. Mais pourquoi ? Chaque fenêtre a pourtant le droit d'exister individuellement et pour elle-même. Le droit de fenêtre. Conformément au droit de fenêtre, les locataires de la maison Underwatzer, à Vienne, Autriche, ont un bail les autorisant à effectuer les modifications dans leur espace d'habitation. Bail. Deuxième point. Le locataire a le droit d'exercer le Festenrecht, droit de fenêtre. Conformément aux propos de Underwatzer, selon lesquels un habitant doit avoir le droit de se pencher par sa fenêtre et de tout modifier sur le mur extérieur à sa convenance et aussi loin que porte son bras, afin qu'on puisse voir de loin depuis la rue « Ici habite un homme ». L'impensable, l'indicible, l'innommable. Qu'espère-t-on d'une science de l'environnement ? Nous créons des sciences à une vitesse accélérée, comme les anciens Romains accueillaient de nouveaux dieux pour tenter d'échapper à l'effondrement de leur empire. Il y a eu d'abord la psychologie. Comment fonctionne ce curieux animal humain et comment le garder pour son bien, en harmonie avec la parfaite organisation sociale enfin découverte ? Quand l'harmonie en question a abouti, malgré tout, à une certaine nervosité collective, à des risques de désordre et même à des bruits de révolte, on s'est inquiété de savoir comment s'animaient les troupeaux humains. Les efforts des sociologues n'ont pas été vains. On a mieux compris et utilisé les riches possibilités de l'urbanisme, des médias, de la culture dite populaire et de l'ilotisme policier. On a maintenu ainsi, en survie prolongée, cette excellente organisation qui nous a conduit à l'actuel naufrage. La science de l'environnement est la dernière née de nos sciences modernes. Sa fonction pratique, qui seule nous importe, on ne paye pas les écologues pour jouer avec leurs petites mares et leurs petites bêtes, sa fonction pratique donc se pose en ces termes. Comment conserver l'actuelle organisation sociale, celle qui paye les chercheurs, sans crever tous rapidement ? En exergue, une citation de Pascal Moati, la fin du muromachie. La décadence et la disparition d'une société ne sont pas toujours ou pas seulement un drame et une calamité. Une telle fin peut aussi relever d'une nécessité impérieuse dont nous sommes, nous-mêmes, les seuls dépositaires. Manifeste de la moisissure contre le rationalisme dans l'architecture. Il est temps que les gens se révoltent eux-mêmes contre leur installation dans des constructions semblables aux cages à poules et à lapins qui ne correspondent en rien à leur nature. Une construction semblable à une cage ou une construction utilitaire est un bâtiment qui reste étranger aux trois catégories d'êtres humains qui sont concernés par elle. 1. L'architecture n'a aucune relation avec la construction. Même s'il est le plus grand génie de l'architecture, il ne peut prévoir quels seront les gens qui l'habiteront. La prétendue dimension humaine de l'architecture est une escroquerie criminelle, surtout lorsque cette dimension est exprimée par la moyenne d'un système de sondage Gallup. Le maçon n'a aucune relation. 2. Le maçon n'a aucune relation avec la construction. S'il entreprend de modifier un mur selon ses conceptions personnelles, même légèrement, il perd son travail. Et il ne s'en soucie d'ailleurs guère, puisqu'il n'habitera pas là. 3. L'occupant n'a aucune relation avec la construction, car il ne l'a pas construite, il n'a fait qu'y emménager. Ses exigences d'homme, son espace humain sont sûrement tout différents. Et ça ne changera rien, ça ne changera pas, même si l'architecture et le maçon s'efforcent de construire en suivant les indications de l'occupant et du client. On ne peut parler d'architecture que lorsque l'architecte, l'occupant et le maçon sont une unité, c'est-à-dire une seule et même personne. Tout le reste n'est pas de l'architecture. Ce n'est qu'une action criminelle devenue forme. L'architecte, le maçon, l'occupant sont une trinité, comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, blabla. L'homme doit retrouver la fonction critique et créatrice qu'il a perdue et sans laquelle il cesse d'exister en tant qu'homme. Criminelle est d'autre part l'utilisation de la règle dans l'architecture. L'équerre et la règle, cela est facile à prouver, peuvent être considérés comme l'instrument du déclin de la trinité architectonique. Le simple fait de porter sur soi la ligne droite devrait être interdit, au moins moralement. Nous vivons aujourd'hui dans le chaos de la ligne droite, dans une jungle de lignes droites. Que celui qui ne veut pas le faire croire fasse un effort et compte les lignes droites qui l'entourent et il comprendra, car il n'en finira jamais de compter. Il n'y a pas tellement longtemps, le fait de posséder des lignes était interdit. Manifeste de la moisissure contre le rationalisme. Maintenant, la peinture et la sculpture sont libres, car chacun peut produire aujourd'hui toutes sortes de choses et les exposer. Mais en architecture, cette liberté fondamentale, condition de toute création artistique, n'existe toujours pas, car il faut d'abord obtenir un diplôme pour pouvoir construire. Pourquoi ? Pourquoi chacun doit avoir la possibilité de construire ? Chacun doit avoir la possibilité de construire tant que cette liberté n'existera pas, on ne pourra pas ranger les projets architecturaux actuels parmi les œuvres d'art. Chez nous, l'architecture est soumise à la même censure que celle imposée à la peinture en Union soviétique. Les réalisations individuelles sont de misérables compromis, passés par des personnes linéaires en proie à la mauvaise conscience. On ne devrait pas brimer le désir de construire de l'individu. Chacun doit avoir la possibilité et l'obligation de construire et assumer ainsi la responsabilité des quatre murs dans lesquels il habite. Et il faut courir le risque de voir une construction folle s'effondrer. Et il ne faut pas craindre les sacrifices humains qu'exige cette façon de construire, qu'elle exige peut-être. Il faut que cesse enfin cette habitude qu'ont les hommes de s'installer dans leur logis comme dans des cages à poules et des clapiers. Lorsqu'une de ces constructions réalisées par les habitants eux-mêmes s'effondre, elle commence de toute façon à craquer d'abord, de sorte qu'on peut s'enfuir. Mais alors le locataire aura un regard plus critique, plus créatif pour les logis qu'il habite, et il renforcera de ses propres mains les murs et les piliers s'il les trouve trop fragiles. Il faut préférer les logements matériellement inhabitables des quartiers miséreux, les taudis, aux logements moralement inhabitables de l'architecture fonctionnelle et utile. Dans les quartiers miséreux, seul le corps des hommes peut périr, mais dans l'architecture prétendument conçue pour l'homme, c'est son âme qui périt. C'est pourquoi il faut améliorer le principe qui régit les taudis, c'est-à-dire l'architecture à développement sauvage et incontrôlé, et la prendre pour base à la place de l'architecture fonctionnelle. L'architecture fonctionnelle s'est avérée comme la mauvaise voie, tout comme la peinture à l'équerre. Nous évoluons à pas de géant vers l'architecture incommode, inutilisable et inhabitable en fin de compte. Le grand tournant que fut pour la peinture l'automatisme tachiste absolu est pour l'architecture l'absolu inhabitable qui est encore à venir, car l'architecture a 30 ans de retard.
Passionnément vôtre. Si vous croyez qu'à présent, je vais vous dire comment je me motive pour remplir des pages blanches, vous vous trompez. La motivation n'existe pas dans mon univers. Je ne suis pas motivée pour faire ce que je fais. En tant qu'artiste, je suis guidée, tirée, poussée en avant par une force profondément ancrée en moi, une force si impétueuse que tenter de la décrire me semble vain. Cette force a un nom toutefois, la passion. La passion est le ciment de mes mosaïques artistiques, le moteur de mes actions. Comme elle est en perpétuel mouvement, elle a un côté impatient, urgent, et comme elle invite ma créativité à se développer, elle est essentielle. Portée par les vents de la passion, je crée. Mais pour qui? Est-ce que je me produis pour moi-même ou pour un public? Ma réponse, c'est les deux, mon capitaine. Lorsque je suis au parc et que je jongle dans mon cercle de craie, je dois capter l'attention des passants, sans quoi ils poursuivraient leur chemin. Durant mon numéro, Lippo, mon personnage burlesque qui se nourrit de la foule, observe les spectateurs prêts à exploiter la moindre réaction. Et dès l'instant où je sens une pointe de torpeur planer au-dessus du public, j'interromps le jonglage et je crée un coup de théâtre destiné à réveiller l'assemblée. Je donne par exemple un coup de sifflet et je tends une corde entre deux arbres. Si je veux offrir un spectacle authentique, je dois être seule. Je dois rester enfermée dans la forteresse de mon art. Le véritable élan artistique n'a rien à voir avec la séduction du public ou bien de son imprésario pour décrocher plus de contrats et plus d'argent. Ce n'est pas ça l'art. Être un artiste, c'est éprouver le besoin d'ériger un mur gigantesque autour de soi et, dans son enceinte, de se fier à son authenticité et à son intuition. Le public voit alors un homme ou une femme prisonnier de sa passion, et c'est bien ça le spectacle le plus exaltant du monde. La voici donc la réponse avec toutes ses contradictions. Je fais preuve d'une subtile indifférence à l'égard du public, envers lequel j'ai la plus grande attention et la plus grande déférence. Voilà qui nous amène à la lisière de mes précieux champs de contradictions que je vous inviterai à explorer avec moi d'ici peu. Pour l'heure, pourquoi devriez-vous vous passionner? Commençons par là. De la créativité, le crime parfait, par Philippe Petit, aux éditions Actes Sud, avec Guillaume à la guitare et Jojo à la trompette.
Et Simone à la lecture.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, l'émission de Lu et approuvé se conclut sur cet enregistrement qui nous a été envoyé par des lecteurs, enfin par des auditeurs de la créativité, le crime parfait, par Philippe Petit. Voilà. Et ce soir, aux éditions Actes Sud. Et ce soir, nous vous avons lu Détruire les villes avec poésie et subversion des urbanismes, le fanzine de critique urbaine 2001-2006, un recueil de fanzines donc paru aux éditions Le Monde à l'envers. Décidément, on les aime bien. Et si vous souhaitez nous contacter, nous faire part de propositions de lecture, nous envoyer des enregistrements de vos lectures pour qu'on les diffuse, n'hésitez pas à le faire par l'adresse mail suivante, lu et approuvé, tout attaché, sans accent, @guyad.org, guyad.org. Pour réécouter notre émission, c'est super simple, c'est le site de Canal Sud, www.canalsud.net, vous tapez lu et approuvé, ou sur notre blog, avec toutes les infos, les couvertures des bouquins et tout ce qui va bien avec, les discographies également des émissions. Notre blog, donc, lu et approuvé, tout attaché, sans accent, .noblogs.org. Voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à la semaine prochaine sur Canal Sud.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles, mais si nous le